Europe 1, Philippe Googler.
Après le flash de 17h tout à l'heure, je vous emmènerai en Bolivie, un pays incroyable avec l'un des plus grands déserts de sel du monde. Une immense étendue blanche, d'un blanc qui éblouit les yeux. C'est un endroit fantastique, on en parlera tout à l'heure. Mais tout de suite, nous sommes dans le Dauphiné avec Nathalie Elal, bien sûr. Vous savez que c'est elle qui a les clés, qui sait ouvrir les portes et qui connaît tous les secrets de nos régions. Si, si, Nathalie.
C'est trop.
C'est passe-partout.
C'est passe-partout.
Oui, c'est ça. Arsène Lupin.
En plus charmant, plus délicat. D'abord, le Dauphiné, moi je trouve que c'est un peu bizarre comme nom. Alors quand on dit dauphin, on pense au gratin dauphinois, mais la deuxième question c'est souvent pourquoi dauphin? Il y a une histoire de roi, de dauphin là derrière, qu'est-ce qui se passe?
Paradoxalement, s'il n'y avait pas eu une histoire de dette de jeu, il n'y aurait pas eu de Dauphiné en France. En fait, il y avait un seigneur dans cette province qui s'appelait Humbert, était criblé de dettes. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu la région au roi de France, Philippe VI.
Ouais.
Et le transport, c'est-à-dire en fait le changement de main, puisque désormais la province va appartenir au domaine royal, on appelle ça comme ça à l'époque, a lieu en 1349. Et en contrepartie, le roi assure que désormais, chaque fils aîné qui est né dans la famille royale va porter le nom de dauphin jusqu'à ce qu'il hérite de la couronne.
Chaque fils du roi va s'appeler
l'aîné.
Dauphin,
ouais.
L'aîné, parce qu'un jour, quelqu'un a vendu le Dauphiné au roi.
Parce qu'il était perclus de dettes.
Ah, c'est dingue.
Mais oui, c'est dingue.
C'est fou.
Oui, puis il y a aussi une histoire de dauphin, mais ça, c'est un peu plus compliqué avec le cétacé. Oui, bien sûr. Bah, en fait, on suppose, mais c'est un peu compliqué, on suppose qu'une reine, la reine Mathilde, originaire de Sicile, surnommait son fiston le dauphin, petit dauphin, Delphinus. Donc ça viendrait de là aussi.
Ah, dites
mais ouais, mais c'est tout un truc, toute une cuisine.
C'est des choses folles, vous saviez ça, Olivier?
Alors, pas du tout.
Bon.
Moi, je m'en tenais au gratin dauphinois,
ouais.
Plus simplement.
On va en parler dans un instant. Alors, les dauphinois, on a un peu du mal à imaginer qui ils sont vraiment. On imagine que c'est plutôt des montagnards, mais il y a dans l'histoire des traces qui montrent qu'ils ont quand même un sacré caractère.
Bah, tu m'étonnes. Bah oui, parce qu'en fait, on peut dire que d'une certaine façon, le Dauphiné, c'est le berceau de la Révolution française. Puisqu'en effet, il y a eu des émeutes à Grenoble. C'est une ville vraiment connue pour ça. Hein. Ouais. Ça part beaucoup de Grenoble. C'est une poudrière. Beaucoup d'émeutes en juin 1788. On appelle ça la journée des Tuiles contre l'autorité royale. Et donc, c'est parti de là. Il y a eu l'assemblée des trois ordres du Dauphiné qui a réclamé, un mois plus tard, la convocation des États généraux. Et c'est pas du tout un hasard d'ailleurs si le château de Vizy dans l'Isère, qui a été le théâtre de cet événement historique, abrite aujourd'hui le musée de la Révolution française.
Ouais. Alors dans le genre châtelain, il y a quand même quelques curiosités assez savoureuses.
Oui, alors j'ai trouvé un excentrique, moi j'aime beaucoup ça, le château de Curieux, il y avait un marquis, le marquis Duvivier, alors lui il élevait des ours dans des cages avec des barreaux de fer et puis se promenait au marché de la Tour du Pin avec un lion tenu en laisse. Je vous laisse imaginer la stupéfaction et l'effroi des habitants et de la région, évidemment. Et puis il avait un peu une autre manie très bizarre, un peu polygame sur les bords, ce brave homme, il louait une fille à son père avec un contrat devant notaire en bonne et due forme.
Attendez, il louait une fille à son père, c'est-à-dire...
Oui, devant son père, c'est-à-dire qu'il faisait un contrat chez un notaire en disant « Voilà, moi je veux ta fille pour 3, 6 ou 9 mois, je l'emmène dans mon château et elle devient ma femme. » Et puis quand il en avait assez, si c'était avant la fin du bail, entre guillemets, parce qu'on peut appeler ça un bail, eh bien il l'enfermait dans une des tours du château jusqu'à la fin. Une sorte de barbe bleue mais qui n'allait pas jusqu'au meurtre.
C'est complètement invraisemblable.
Mais c'est vrai, c'est une histoire vraie.
Enfin, ça s'appelle aujourd'hui du proxénétisme, en gros. Hein.
Ou de la bigamie, ou de la polygamie, comme on veut.
Oui.
On est dans la nuance un petit peu sur Europe 1.
Oui, moi je rejoins Olivier, je ferai plus sur la prostitution, tout simplement.
Oui, si ça vous fait plaisir.
Jean-Bernard, un avis complémentaire?
Ouais, je suis très impressionné par tous ces personnages historiques qui se dégagent de ce Dauphiné. Hein, franchement, c'est impressionnant. Vous en avez d'autres comme ça, des savoureux?
Ah oui, j'en ai quelques-unes dans ma besace. Alors par exemple... Je voudrais vous parler du massif du Vercors et du maquis du Vercors. Alors, vous savez, c'est une citadelle de calcaire, un parc naturel régional le plus grand des Alpes du Nord, avec des gouffres, des grottes, des routes incroyables qui sont ourlées de falaises spectaculaires. Ça, c'est le décor. Mais surtout, ce massif du Vercors, eh bien, il va jouer un rôle essentiel durant la Seconde Guerre mondiale.
Ah oui, la résistance.
Mais bien sûr, il devient une importante base de la résistance française qui s'y réfugie parce que C'est une forteresse naturelle. Donc, il y a des prisonniers de guerre récemment évadés, des militaires français qui sont démobilisés, des antifascistes italiens, des jeunes travailleurs qui fuient le service du travail obligatoire instauré par le maréchal Pétain. Et donc, très vite, il prend une importance stratégique, ce maquis, parce que notamment, en cas de débarquement, il pourrait stopper toute retraite des troupes allemandes. Alors évidemment, il y a des parachutages d'armes aux maquisards qui sont aidés et ravitaillés par la population sur les plateaux du massif. Et puis, bien sûr, les Allemands comprennent que c'est tellement stratégique qu'il faut absolument qu'il s'y passe quelque chose et qu'ils y mettent fin à tout ça. Et donc, il y a, en janvier 1943, de terribles affrontements entre les maquisards, la milice française et les troupes allemandes. Tout ça finit mal. Pour une autre raison, tout simplement, c'est que les Alliés, à cause des rivalités entre Alger et le gouvernement de la France libre de Londres, vont lâcher ces maquisards du Vercors. Donc ça va s'évanouir dans la nature, c'est le cas de le dire. Ça va faire pchit avec beaucoup de, malheureusement, de destin tragique. Mais c'est un épisode essentiel de notre histoire.
Oui, c'est un épisode. C'est très important que vous nous l'ayez rappelé parce qu'on sait tous que le maquis du Vercors, c'était important, mais on ne savait pas trop. Enfin, dans la mémoire, on ne sait plus trop pourquoi. Et c'est très bien que vous nous ayez raconté ça. En quelques secondes, parlez-nous des lettres de la marquise de Sévigné, parce que c'est dans le coin aussi.
Oui, alors le Dauphiné, c'est une terre de châteaux, mais il y a aussi, un peu plus loin dans la Drôme, le château de Grignan. Alors ça, c'est le château qui est lié finalement à l'explosion d'un talent littéraire. La marquise de Sévigné, séparée de sa fille adorée, va entamer une correspondance qui va durer 25 ans. Sa fille est au château de Grignan. La marquise va y séjourner en réalité seulement 4 ans, mais des très longs séjours. Donc évidemment, on peut dire que ça a été le déclencheur de la vocation littéraire de notre marquise qui nous a laissé des lettres savoureuses, 764 lettres en tout.
Merci beaucoup Nathalie. Dans un instant, nous aborderons le sujet, finalement, n'est-ce pas le seul? Le sujet qui nous taraude depuis le début, c'est le gratin.
Oh bah bien sûr.
Pourquoi est-il dauphinois? Pourquoi un simple gratin de patates mérite-t-elle un tel titre?
Et a-t-il fait le tour du monde?
Absolument. La réponse sur Europe 1 dans un instant.